L'invité.
Parce qu'elle est riche, complexe, parce qu'elle est unique et précieuse, parce qu'elle est belle, tout simplement. Du 23 au 27 octobre, Phare FM célèbre la vie. Une semaine pour explorer la vie dans toutes ses dimensions et plus que tout en saisir le caractère divin. À cette occasion, Bertrand Souchard est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes titulaire de la chaire Sciences et Religions à l'Université catholique de Lyon, docteur en philosophie, maître en théologie, auteur du livre notamment Dieu et la science en question. Dans le prologue de l'ouvrage écrit en 2010, vous estimez que le fil rouge est l'adage attribué à Louis Pasteur. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Pourquoi ?
Parce que souvent on oppose la science et la religion. Et en fait, si on examine un petit peu la science en profondeur, elle rejoint des attitudes de la foi. La philosophie et la science doivent commencer par l'étonnement, par l'interrogation. Et bien la foi, c'est aussi la louange et l'émerveillement. Donc entre la louange de l'homme de foi qui se tourne vers son créateur et l'étonnement aristotélicien ou l'étonnement scientifique, il peut y avoir des connivences.
Alors pour cette semaine de la vie, on a choisi de parler un petit peu de science aussi. Est-ce que pour vous, la science peut répondre à toutes les questions aujourd'hui ?
Alors non, justement, il y a un auteur qui défend cette idée, qui s'appelle Auguste Comte. Enfin, on appelle le scientisme celui qui pense que la science pourra répondre à toutes les questions. Voilà, si c'est pas maintenant, c'est pour plus tard. Bon, c'est un peu à distinguer du positivisme, mais bon, on va faire simple. C'est le scientisme, c'est celui qui pense que la science peut tout expliquer. Alors, pour expliquer un petit peu que la science ne peut justement pas tout expliquer, je vais raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu ses clés entre chez lui et son travail. Or, il fait nuit et vraisemblablement, il l'a perdu dans la rue près de chez lui. Mais dans la rue, près de chez lui, il y a un lampadaire. Alors il est content, il y a un lampadaire, donc il commence à chercher ses clés près du lampadaire. Et donc il y a un voisin qui le voit tourner autour du lampadaire, il demande ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais ? Ben je cherche mes clés. Tu les as perdues près du lampadaire ? Ah ben non, mais c'est là où il y a de la lumière. Alors le scientiste, c'est un peu celui-là. C'est celui qui pense que n'existe comme savoir que ce qu'il y a autour du lampadaire. Alors c'est vrai que la science apporte une certaine lumière sur la matière, sur le monde, mais il y a toujours des questions un peu irrésolues. En fait, les grandes questions qui sont celles du sens de l'existence humaine et du sens de l'univers. Hein. Qu'est-ce que je fais là au milieu de nulle part ? Quand on regarde le ciel, qu'est-ce que je fais là ? Et qui suis-je ? Et quelle est la vie après la mort ? Ces questions-là, elles échappent en fait à la science. Alors pour le dire aussi un peu simplement, mais c'est une distinction qui a sa valeur, on va dire que la science dit le comment, mais finalement la philosophie, la religion, les éléments de la culture disent le pourquoi. La science dit le comment, mais lui échappe la question du pourquoi. C'est au-delà. Il y a des tas de choses qui ne se mesurent pas. Peut-on mesurer l'amour ? Peut-on mesurer l'esprit ? Peut-on mesurer la foi ? Alors il y a une phrase qui est attribuée à Saint Bernard, « La mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure. » Y a-t-il une mesure de l'amour ? Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Est-ce que c'est 5 degrés sur l'échelle de Richter ? Même si ça secoue quand on aime. Ben non, parce qu'en fait, l'amour ne se met pas en équation. Alors on peut réfléchir sur l'amour. Aristote le fait. Qu'est-ce que l'amitié ? Mais donner une équation de l'amour, c'est pas possible. Même la psychologie et la sociologie n'enferment pas. Et si on avait l'équation de l'amour, tous les gens qui divorcent et qui s'écharpent après avoir s'aimé follement seraient bien bêtes puisqu'ils n'appliqueraient pas cette formule. Donc il y a des choses qui nous échappent. Hein. Le sans mesure, le pourquoi, échappe par principe à la science. Là où tout le monde est plus ou moins d'accord, si on n'est pas scientiste, donc le scientiste pense que la science peut tout expliquer, mais comment on va appeler cet au-delà de la science ? Eh bien, cet au-delà de la science, tout le monde est plus ou moins d'accord. Ce sont les trois figures de la culture que sont la religion, la philosophie et l'art. L'art, la philosophie et la religion, les trois figures de l'absolu pour Hegel, sont, je dirais, ce côté obscur qui essaye de déchiffrer le sens au-delà de la science, de déchiffrer le pourquoi au-delà du comment, de déchiffrer l'obscur au-delà du lampadaire. Alors voilà, le scientifique, il est sous le lampadaire, il a son comment, il a son mesurable, c'est très bien, mais au-delà du lampadaire, il y a l'obscur qui essaye de déchiffrer la philosophie, l'art et la religion.
Une autre idée qui circule un petit peu aujourd'hui, en tout cas que j'ai lue, c'est la question qui vise à demander finalement est-ce que le Big Bang n'est pas une sorte de théorie scientifique pour dire l'idée religieuse de la création qu'on a nous aujourd'hui ?
Alors, J'ai écrit pas mal de choses sur cette question, je vais essayer d'être bref. À la fois, il faut dire que le Big Bang n'est pas la création, parce que le Big Bang, enfin, c'est la formule, l'expression simple de la théorie dite de l'expansion de l'univers. Donc d'un côté, on a une théorie scientifique, de l'autre côté, la création, c'est une théorie religieuse. Donc normalement, elles sont encore une fois deux registres différents, on va dire le comment et le pourquoi, le mesurable et le non mesurable d'un côté. Sauf que c'est le même univers qui est examiné par la science et la religion, et en fait, il y a quand même des points de vue communs. Tout d'abord, il faut noter que le découvreur du Big Bang, c'est pas très connu, mais le découvreur du Big Bang, c'est un prêtre catholique. On sait tous que la gravitation universelle, c'est Newton, que la théorie de l'évolution, c'est Darwin, que la relativité générale, c'est Einstein. Peu de gens savent que le Big Bang, c'est le prêtre catholique qui s'appelle Georges Lemaître, un prêtre belge. Oui, il était prêtre et belge, ça fait beaucoup pour une personne. Enfin, je fais de l'ironie. Et Big Bang, en fait, Big Bang, ça vient de ses adversaires. Puisque, en fait, en arrivant à un congrès en astrophysique aux États-Unis, un homme, pour se moquer de lui, dit, en voyant arriver, « This is the Big Bang Man, voici l'homme de la grosse boum », pour se moquer de lui, parce qu'il pensait que l'univers était fixe. Alors, ce qu'il y a, c'est que le maître s'est opposé à Einstein, et Einstein n'a pas cru au Big Bang au départ. Comme il dit, c'est la plus grosse erreur de ma vie. Einstein, figurez-vous, s'est trompé. Et puis, il a fallu 40 ans pour que cette théorie soit acceptée, puisque le maître dit tout à peu près dans les années 25-30. En fait, il faut attendre ce qu'on appelle la découverte du rayonnement fossile en 1965 pour que toute la communauté scientifique bascule dans l'idée qu'il y a bien une expansion de l'univers et que l'univers, justement, croit. Alors, ça, c'est l'élément scientifique. En quoi ça peut quand même nous dire quelque chose de la création? Parce que quand on est croyant, chrétien, la création, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la dépendance dans l'être. Je dépends à tout moment, autrefois ou maintenant, de Dieu. Et puis, le deuxième élément de la foi dans la création, c'est l'idée qu'il y a un commencement. Bien sûr, le Big Bang ne dit pas la dépendance dans l'être, mais il peut exprimer quelque chose de l'idée de commencement. D'ailleurs, le début de la Bible, Bereshit bara Elohim, au commencement était le ciel et la terre, en fait, c'est dans la tête, au début du prologue de Saint Jean, en arche en logos, au commencement, mais qu'on peut traduire aussi in principio en latin, dans le principe. En fait, l'idée de création dans la Bible, c'est à la fois le commencement et le principe. Alors, le Big Bang ne va pas dire le principe, la dépendance dans l'être, mais il peut exprimer quelque chose du commencement, parce que le Big Bang, c'est quand même assez étonnant. C'est quand même un point nul avec une énergie infinie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un point zéro où vous avez la totalité de l'énergie, du temps et de l'espace qui se mettent à exploser? Alors effectivement, ça ressemble un petit peu à un commencement, même si évidemment, d'un point de vue scientifique, on peut penser qu'il y a un Big Crunch avant. Donc ce serait simplement une idée de commencement. Voilà, en ce sens-là, le Big Bang exprimerait quelque chose du commencement et de la création. Alors après, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Quand on parle du principe anthropique, le principe anthropique, ce n'est pas une idée scientifique, mais c'est une idée philosophique qui s'étonne des constantes dans l'univers. Je vais juste en donner une coïncidence assez étonnante. Pourquoi la Lune et le Soleil sont-ils pour nous de la même taille? Peut-être que les auditeurs n'ont jamais pensé à ça, mais le Soleil et la Lune, de fait, sont à peu près pour nous de la même taille. Parce qu'en fait, le Soleil est 40 fois plus gros que la Lune, et la Lune est 40 fois plus proche que le Soleil. Ce qui fait que c'est la même taille. La conséquence de ça, c'est que de temps en temps, on a des éclipses. Et une éclipse, c'est tout d'un coup la Lune qui passe devant le Soleil. Et le fait qu'on ait une éclipse, c'est qu'on a les deux disques ont effectivement la même taille. Si la Lune avait été plus grosse que le Soleil, on aurait une éclipse, mais on n'aurait pas le joli halo autour de la Lune. Si la Lune était plus petite que le Soleil, on n'aurait pas d'éclipse totale. Et là, c'est pas drôle, parce que ce qui est très drôle avec une éclipse, c'est qu'en plein jour, on est en pleine nuit. Et pourquoi le Soleil et la Lune sont de la même taille pour nous? Réponse, c'est très joli. Il n'y a pas de raison, en fait. C'est tout à fait factuel. Mais voilà. Alors, quand on regarde le cosmos, bon là c'est un exemple, il y a aussi un certain nombre de constantes dans l'univers qui sont assez étonnantes aussi. On a parlé des univers parallèles, mais justement c'est que notre univers est quand même assez étonnant. Et à partir de cet étonnement, là aussi on peut comprendre éventuellement le principe d'un être supérieur à l'origine de cet univers.
Il y a toute sa place pour le divin aujourd'hui dans la création de la vie?
Oui, alors ce qu'il y a, c'est que le principe de la création, c'est que quand même il y a une autonomie du créé. On peut trouver des traces du divin dans la vie ou dans la création, mais ce ne sont que des traces. Et puis, il y a quand même une autonomie. La tentation créationniste, alors on a parlé tout à l'heure de la tentation scientiste, quand la science veut absorber la religion, Mais il y a une tentation inverse, c'est la tentation créationniste, c'est quand le discours religieux voudrait absorber le discours scientifique et faire en sorte que le discours scientifique soit une propédeutique à la religion. Alors ça, c'est une tentation qui existe, qui a toujours existé, enfin qui existe, je dirais, depuis que la science existe d'une certaine manière, mais la science ne dit rien de la foi. Ce qui est important, c'est qu'il y a un médiateur, et le tiers neutre, moi personnellement, entre la science et la religion, c'est la philosophie. C'est la philosophie qui peut faire l'intermédiaire. Mais donc, il faut éviter de faire du créationnisme, c'est-à-dire de vouloir en faire un discours théologique à partir de la science. Ça, c'est pas possible.
Et pourtant, c'est encore un discours qu'on entend souvent. D'où ça vient, ces relents de créationnisme, là, encore aujourd'hui ?
Il faut distinguer les points de vue, voir que la science, elle a sa légitimité, mais en même temps, elle est limitée. Il faut voir aussi que la religion a sa légitimité, mais elle est limitée. Hein. L'idéologie, c'est toujours lorsqu'un point de vue relatif et légitime devient absolu. Donc la science et la religion peuvent toujours devenir des idéologies, mais on peut faire des idéologies avec n'importe quoi. Et puis en fait, c'est vrai que c'est le même personne qui est croyante et scientifique qui va regarder l'univers. Et souvent ce qui manque dans la tentation créationniste, c'est la médiation philosophique. Je suis un catholique qui part sur une radio protestante, voilà, mais il y a des tentations un petit peu créationnistes aux États-Unis. Moi personnellement, me semble-t-il, parce qu'il manque une médiation philosophique. Parce que la théologie ne pourrait s'incarner que dans la théologie. Tu m'excuses de dire ce que je vais dire là, mais il semble que Luther aurait dit « la philosophie, c'est la putain du diable ». Bon, il va faire l'écriture seule sans philosophie, mais à l'arrivée, c'est qu'il y a un manque quand même de philosophie. Puis on va éliminer aussi, par exemple, les textes dits deutérocanoniques pour les catholiques, c'est-à-dire les textes où il y a de la philosophie grecque dans la Bible. Il y a aussi une tendance, ceux qui croient à la prédestination du bien et du mal, vont aller du côté de ce qu'on appelle l'intelligent design. Parce qu'il y a plusieurs formes de créationnisme. Il y a évidemment le créationniste qui va prendre la Bible, je dirais, au pied de la lettre, sans voir son genre littéraire, etc. Alors, prendre au pied de la lettre, pour ça, c'est un créationnisme, je dirais, un petit peu absolu. On en a de moins en moins. Maintenant, un créationnisme plus relatif, c'est ceux qui croient à l'intelligent design. Alors, c'est vrai qu'il y a une finalité dans la nature, mais de la finalité dans la nature en faire un dessin intelligent, l'intelligent design, moi, personnellement, je pense que ça vient aussi d'une théologie de la prédestination qui ne met pas suffisamment d'autonomie dans la liberté humaine pour la prédestination et dans l'autonomie de la création pour la théologie de la création. Voilà, alors il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y a toujours un petit peu de créationnisme. On en rencontre, ça serait plutôt dans l'islam. C'est vrai que c'est plutôt des tendances un petit peu protestantes américaines, par exemple. Mais en France, il n'y a pas beaucoup de créationnisme. Il y avait des enquêtes qui avaient été faites sur l'enseignement d'un certain créationnisme au lycée. Bon, alors la France, c'est des avantages et des inconvénients. On est un peu dans un pays laïciste qui sépare la foi et l'État. On n'a pas la tentation de la confusion, on a plutôt la tentation de la séparation. Donc du coup, on est un petit peu préservé du créationnisme, mais du coup, on n'articule pas les deux. Donc il faut aussi articuler les deux.
Alors je me doute un petit peu de votre réponse au vu de l'échange qu'on vient d'avoir, mais aujourd'hui, vous, et de ce que vous en entendez aussi auprès peut-être de vos confrères, est-ce que les textes de la création en 7 jours, tout ce qui est un peu dans la Genèse, sont compatibles aujourd'hui avec la science, avec les données scientifiques qu'on a ?
Si vous voulez m'entendre dire que c'est compatible, je ne sais pas ce que ça veut dire compatible. Pour moi, les textes de la création sont des textes théologiques qui parlent de l'homme dans son rapport à Dieu. C'est des écrits symboliques. Alors symbolique, ça ne veut pas dire des écrits qui n'ont pas de sens. Au contraire, quand si je parle du complexe d'Œdipe et je raconte l'histoire d'Œdipe, c'est une histoire, mais en même temps c'est très réel, parce que la question du rapport de la fille à son père ou du père à sa mère, c'est très important, donc c'est très réel. Donc le symbolique n'est pas contraire de réel. Maintenant, ce n'est pas à la Bible de dire comment est l'univers. C'est à la Bible de dire pourquoi nous sommes dans cet univers. Voilà, c'est deux domaines de questions différentes. C'est deux registres différents. C'est comme si vous regardez la primatiale Saint-Jean à Lyon, vous pouvez la regarder de la façade ou vous pouvez la regarder du côté de la Saône par derrière. Vous avez deux points de vue. Alors, les points de vue sont compatibles si on accepte qu'ils sont complémentaires et différents. Mais si on veut qu'ils disent la même chose, bien là, on les fait rentrer en conflit, évidemment. Encore une fois, la science, c'est le comment, la religion, la philosophie, c'est le pourquoi. Ce n'est pas les mêmes niveaux de discours.
Mais finalement, les deux se complètent, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire.
Voilà, on peut dire qu'ils sont complémentaires parce qu'ils ne répondent pas au même objectif, c'est tout. Ils ne répondent pas à la même question. Il ne faut pas demander à la science de donner un sens à l'existence. Alors c'est vrai que souvent, d'un côté créationniste, on voudrait faire que la Bible dise l'univers, donc c'est la tentation créationniste. C'est vrai qu'aussi, beaucoup de physiciens, à partir du moment où ils travaillent sur le Big Bang, en fait, se posent des questions métaphysiques. Et sans s'en apercevoir, rapidement, souvent, ils dépassent leur discours et ils vont au-delà de la science, ils vont du physique au métaphysique. Si la science a un matérialisme méthodologique légitime, elle ne parle qu'à partir de la matière, après, on peut passer au matérialisme ontologique, c'est-à-dire tout n'est que matière, ce qui est une position métaphysique, ce qui est défendu par Démocrite chez les Grecs. Mais là aussi, on passe de la physique à une certaine métaphysique. Donc, le dépassement du niveau des discours, il est dans tous les sens. Mais encore une fois, si on accepte qu'il y a une pluralité des discours, et c'est la philosophie, encore une fois, que je pense qui est médiatrice, parce qu'elle va permettre d'analyser les concepts de matière, de temps, d'espace. C'est par elle que la médiation est possible.
C'est un peu elle qui vous aide à rester toujours sur le fil entre la science et la religion.
Oui, oui. Par exemple, le Big Bang est la création. Alors, je vais vous prendre un exemple. En tant que philosophe, je peux réfléchir à la question du temps. Dans la Bible, c'est toujours une histoire. C'est intéressant de voir ça, que la Bible, c'est toujours, à la différence du Coran, la Bible s'exprime selon un temps et un espace, et une dimension historique. Eh bien, on retrouve d'ailleurs cette dimension historique dans le Big Bang ou dans la théorie de l'évolution. Eh bien, on retrouve aussi qu'il y a une histoire de la vie et puis qu'il y a une histoire du cosmos. La philosophie va pouvoir réfléchir à qu'est-ce que l'histoire qu'on retrouve à la fois dans la révélation, dans le livre de la nature et dans le livre de la révélation. C'est un concept commun, mais un autre concept commun, c'est celui du temps. Qu'est-ce que le temps? Alors on peut réfléchir, je fais des cours entiers sur cette question, ça prend du temps. Mais le temps, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que le temps, c'est en fait l'irréversibilité. Le temps, c'est ça s'en va et ça revient pas. Là, on est en train de faire une interview. Bon, au bout d'un certain temps, vous me direz, c'est terminé. Donc, ça dure un certain temps. Le temps est irréversible. On pourrait dire que le temps, c'est le don sans retour. C'est ce qui se donne et ce qui ne se reprend pas. Voilà, là, je fais très rapidement une analyse philosophique du temps. À partir de là, je peux en faire une analyse théologique, parce qu'il n'y a pas de don sans retour, sans un donateur, sans quelqu'un qui donne. Donc moi, je peux voir dans le temps, dans son irréversibilité, dans le fait que ça avance, une trace du don promis de Dieu. Mais là, évidemment, je fais un discours théologique. Voir que dans la création, il y a du temps et de l'irréversibilité, qu'il y a évolution des espèces, qu'il y a évolution du cosmos, ça exprime ce don sans retour du temps. Et en fait, c'est pour ça que, par exemple, l'évolution dit mieux la création que la fixité des espèces. Parce que la fixité des espèces, c'est une lecture primaire de la Bible qui justement élimine le temps, mais la fixité ne dit pas le don sans retour du temps. Par cette médiation d'une réflexion sur le temps, je peux articuler évolution et création par exemple, en disant que le don sans retour de l'évolution du temps me dit quelque chose du don de Dieu.
Merci beaucoup Bertrand Souchard, c'est effectivement le temps de la fin de cette interview, vous l'avez très bien prédit. Je rappelle donc que vous êtes titulaire de la chaire sciences et religions à l'Université catholique de Lyon, docteur en philosophie, maître en théologie, vous avez écrit plusieurs ouvrages que je vous recommande d'ailleurs de lire si jamais vous êtes intéressé par cette question.